Tout de suite, on a le plaisir d'accueillir en plateau Florian Roger, qui est avec nous, responsable de la stratégie d'investissement chez BNP Paribas CIB. Bonjour Florian, merci d'être avec nous sur BFM Business, bienvenue en plateau. Vous venez un petit peu plus tôt, on vous retrouvera dans le club à 17h, mais juste avant, je voulais vous inviter pour prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qui se passe d'un point de vue monétaire, avec, on l'a encore vu hier, les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont robustes aux États-Unis. Jerome Powell, mardi, lors d'une table ronde à Washington, qui dit très clairement on n'est pas très à l'aise avec les données de marché. Et puis, dans le même temps, en dehors des baisses de taux, les États-Unis qui vont devoir se refinancer d'une façon colossale cette année, afin d'alimenter ce train de vie qui, rappelons-le, est dans une période cruciale avec la période électorale.
C'est ça, vous avez résumé plein de choses. On a effectivement une situation plus compliquée pour la Fed. Si on prend un peu de recul, en 2022 et 2023, l'objectif clé de la Fed, c'était d'ancrer les anticipations d'inflation et de juguler l'inflation, qui était montée en juin 2022 à 9,1%. Quand on est arrivé sur la fin de l'année 2023, on avait un niveau d'inflation qui n'était pas à l'objectif, mais qui était autour de 3,5%. Donc il y avait une grosse partie du travail qui était déjà réalisée. Et ce qui se projetait sur 2024, c'était un nouveau challenge pour la Fed. C'est ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de refinancement. Beaucoup d'entreprises se sont financées pendant la crise du Covid. Donc j'avais beaucoup plus de dettes qui arrivaient à maturité sur 2024-2025. On a eu un creusement du déficit public pendant la crise du Covid. On n'a pas de consolidation budgétaire, donc on a beaucoup d'émissions publiques. Et du fait de l'inflation, les banques centrales ont dû faire des politiques de quantitative tightening, donc en fait vendre des actifs dans le marché qui doivent trouver preneur. Et le pivot de décembre, vraisemblablement, était pour aider au financement de l'économie américaine. Et ça a très bien marché. Si vous regardez les émissions brutes aux États-Unis sur les bonnes signatures investment grade plus le high yield, on fait plus de 600 milliards au premier trimestre 2024. C'est un record depuis 10 ans si on enlève la période du Covid. Donc la Fed, en pivotant sur le mois de décembre, a énormément facilité le financement, mais a dépriorisé l'inflation. Le marché s'est dit « Oh, la Fed est en train de pivoter en décembre, ils sont hyper confiants sur l'inflation ». Non, je pense qu'ils savaient en fait que le dernier kilomètre de désinflation va être compliqué parce que la situation du marché du travail est tendue aux États-Unis, mais le marché avait anticipé un peu trop rapidement la désinflation. Donc on a eu deux chiffres en janvier et février qui étaient au-delà des attentes sur l'inflation. Il y a un mois, on avait discuté ensemble de la réunion de la Fed. Bon, lors du FOMC, la Fed avait dit on va quand même baisser les taux, a priori en juin. Mmh. Le problème là, c'est que depuis, il y a l'augmentation des prix des matières premières. Et quand vous avez un marché du travail tendu, une augmentation des prix des matières premières peut entraîner des effets de second tour. Et c'est ça qui gêne, en fait, aujourd'hui la Fed. Et donc, mardi dernier, Jerome Powell nous a dit vraisemblablement on va être obligé d'attendre plus longtemps que le mois de juin.
Et le président de l'antenne de New York, John Williams, a remis une louche en disant si les données le nécessitent, on n'hésitera pas à remonter les taux. C'est quand même la première fois qu'un membre de la Fed met ça sur la table. On est quand même dans un changement de paradigme total en l'espace de 4 mois.
Alors, en termes de scénario central, je trouve que la barre pour remonter les taux est encore quand même assez loin. C'est-à-dire que ce serait mal compris par les marchés d'avoir une baisse de taux qui entraîne une remontée des anticipations d'inflation. Donc effectivement, ils sont obligés de décaler en fait la première baisse de taux. Maintenant, c'est ce que vous indiquiez tout à l'heure, et on l'a vu dans le World Economic Outlook du FMI publié cette semaine, on va avoir énormément d'émissions publiques sur les prochaines années. On est à 12,5% du PIB en fait par an. On a une montée de la charge d'intérêt. Et donc la dette privée a été refinancée, on a un peu déconstruit le mur de maturité, mais sur la partie publique, il y a encore beaucoup de financement. Et donc, en équilibre, je pense que le prochain mouvement reste quand même baissier. Il est simplement décalé. Mais à mon avis, on aura quand même une baisse de taux avant l'élection présidentielle.
Et en termes de taux, là, sur le 10 ans américain, on est à 4,6. C'est assez amusant d'ailleurs de voir que le taux court, le 2 ans, est à 5%. Donc pour l'instant, ça paye plus le taux court. Cette inversion de la courbe des taux, c'est marrant, mais on n'en parle plus du tout. Le marché s'est totalement accommodé. Comment ça va se passer là cette année? Dans le sens où on entend pas mal d'analystes, d'intervenants nous dire il y aura tellement de milliards à refinancer qu'il y aura peut-être un problème dans le sens où la demande ne va pas suivre. Comment vous voyez-vous aujourd'hui la situation chez BNP Paribas CIB?
C'est pour ça que la Fed va quand même baisser ses taux, selon nous, en fait, sur l'année 2024, parce qu'on a cette problématique de financement qui reste. Sur la partie obligataire, là, on est quand même dans une phase, selon nous, un peu de surréaction. Parce que justement, le marché anticipe plus tellement de baisse de taux. On voit des acteurs qui nous disent qu'il n'y aura pas de baisse de taux en fait, sur l'année 2024. Or, selon nous, il y aura une baisse de taux qui va arriver. Le juge de paix, ça va être aussi la conjoncture. C'est-à-dire que là, on a une croissance qui reste très forte, sur le premier trimestre. Mais à partir du deuxième trimestre et surtout du troisième trimestre, les effets de l'assouplissement des conditions monétaires et financières qui avaient entraîné le pivot de la Fed au mois de décembre vont se dissiper. Donc j'aurai moins d'élan dans ce sens-là. Je vais avoir une politique budgétaire qui va moins soutenir la croissance. Et ça y est, les ménages américains ont épuisé leur excédent d'épargne. Or là, j'ai une augmentation des prix du pétrole. C'est un problème de pouvoir d'achat. Donc au T1, il y a une phase de reflation en fait, de l'économie mondiale. La Chine a été au-delà des attentes. L'Allemagne, on l'a vu sur la production industrielle, c'est mieux. Les États-Unis, ça tient très bien. Donc on a une prudence de la Fed sur la désinflation. Le côté cyclique sur le T2, T3 aux États-Unis devrait être quand même un petit peu plus faible et rassuré sur le côté en fait diminution des taux longs selon nous.
Et l'inflation, vous la voyez comment la trajectoire dans les prochaines semaines, sachant que pour l'instant on a les résultats du premier trimestre qui montrent que les entreprises en ont encore sous la pédale, ils arrivent encore à augmenter les prix. On le voit aujourd'hui avec Procter & Gamble. Alors c'est des secteurs très différents, c'est peut-être des niches, hein, mais Amex publie des résultats largement au-dessus des attentes. Les compagnies aériennes sont hyper positives. Enfin pour l'instant les marges, elles ne sont pas comprimées, elles continue de s'étendre via notamment des hausses de prix.
Ce qu'il faut bien avoir en tête, en fait, sur la désinflation américaine attendue sur l'année 2024, c'est que 2/3, c'est l'immobilier. Dans l'indice CPI américain, on a un poids de la composante qu'on appelle shelter, en fait, qui sont les loyers, qui représente 30%. Et sur l'inflation immobilière, on est quasiment à 6%. Donc, la désinflation immobilière est plus compliquée parce que la situation du marché du travail est meilleure. Et donc, si vous avez plus de revenus, vous pouvez payer des loyers plus importants. Néanmoins, quand on regarde les indicateurs avancés immobiliers, ça montre une désinflation. Et là, on a une remontée des taux longs. Et donc, cette remontée des taux longs risque quand même de recasser un petit peu la dynamique immobilière et permettre quand même que la désinflation se réalise.
Donc, pour vous, la désinflation, il n'y a pas de risque de second tour avec une inflation qui devrait remonter fortement dans les prochains mois?
La Banque centrale va contenir les risques de désancrage des anticipations d'inflation. Et selon nous, la désinflation va quand même se poursuivre, notamment en fait via l'immobilier.
Sabrina.
Oui, et surtout qu'aujourd'hui, enfin, cette année, c'est quand même une échéance électorale assez importante avec les élections américaines. Comment la Fed va pouvoir naviguer avec cette échéance à venir?
Avant l'élection présidentielle, comme on disait tout à l'heure, si on veut éviter des tensions sur les taux longs parce qu'il y a beaucoup d'émissions publiques, je pense qu'il faudra baisser les taux. Donc, je le disais précédemment, il ne faut pas baisser les taux, la répercussion, ce soit une augmentation des taux longs, baisser les taux courts et faire monter les taux longs, la compréhension de la politique monétaire serait mauvaise à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que la Fed patiente un petit peu, mais je pense qu'ils ont quand même en tête de baisser les taux sur l'année 2024, et avec une croissance qui cycliquement va ralentir sur le deuxième et troisième trimestre, à mon avis, l'ancrage des anticipations d'inflation sera plus facile à ce moment-là. Et donc, on aura des baisses de taux. Avoir potentiellement deux baisses de taux avant l'élection présidentielle, c'est absolument pas impossible aujourd'hui. Donc, juin, maintenant, la probabilité est faible. Mais avoir juillet et septembre, c'est absolument pas impossible.
Oui, c'est vrai que la baisse de taux au mois de juin, elle est totalement enterrée. Je voyais hier FedWatch, 15% maintenant. C'est dingue comment, en l'espace d'un mois, ça s'est inversé à une vitesse hallucinante. En termes de scénario, est-ce que vous croyez également au scénario qu'il n'y en aurait pas du tout? Parce que c'est vrai quand même que maintenant, il y a cette petite musique qui revient.
C'est là où il y a une petite surréaction du marché. Et autant en décale, encore une fois, il y a quand même une problématique de financement qui reste. Et la croissance va quand même se calmer sur le T2, T3. Pour nous, il y a une phase un peu de surréaction en fait, du marché, avec cette anticipation une baisse de taux, en fait, là. Selon nous, il y aura un petit peu plus. Et le côté cyclique, en fait, va ramener un peu à la réalité. Là, la hausse des taux longs devrait quand même mordre sur la conjoncture.
On en reparlera dans un instant, mais vous êtes responsable de la stratégie d'investissement. Pour l'instant, cette situation, elle n'est pas favorable quand même au marché actions, dans le sens où vous retrouvez du 2 ans américain à 5%. Le monétaire qui, pour l'instant, ne baisse pas, comme il n'y a pas de baisse de taux, les investisseurs sont quand même toujours payés à attendre.
Pour l'instant, il y a effectivement des prises de profit qui s'opèrent parce que il y a un changement d'anticipation pour la Banque centrale. Et n'oublions pas qu'on restait depuis le pivot sur une hausse du marché de 20%. Donc en fait, il y avait une repondération des actifs risqués suite au pivot parce que les gens avaient été trop pessimistes globalement sur l'ensemble des actifs risqués. On est arrivé à un moment où finalement il y avait un peu trop de complaisance vraisemblablement vis-à-vis de l'inflation. Voilà, il y a une normalisation. Selon nous, on a quand même plus de croissance aux États-Unis. On aura effectivement une Fed qui va baisser ses taux d'intérêt. Donc, on n'a pas l'idée, en fait, qu'on passe sur une phase de correction qui soit quand même très importante aujourd'hui.
Sur le marché actions?
sur le marché action.
Avec le S&P 500 qui est aligné hier soir, 5 baisses dans le rouge. Alors bon, c'est pas des grosses baisses, on n'est pas sur 1%, mais ce n'était pas arrivé depuis octobre dernier.